Vous allez écouter l'émission Mot de passe.
sur 20, l'année de la réussite par l'excellence, la note maximale accordée à tous, un très bien général, le plus beau résultat jamais obtenu. Eh bien, c'est pour vous. Félicitations, tableau d'honneur. Vous êtes les meilleurs de la classe. Bravo, continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur l'année 2020 et surtout, vous êtes sur RTVFM 102.2. C'est pour vous, c'est à vous, c'est vos résultats d'auditeurs. Mais attention, pas de relâche. Et je perçois dans cette note maximale votre point de déséquilibre. Je ne vois pas la pile à côté de votre fauteuil cosy. Où sont passés vos exercices ? Mais non, un livre, ce n'est pas un cale-porte. Amélino tombe, en fait des combustibles, mais elle en écrit tellement qu'elle a des réserves. Mais vous, lecteur, vous, futur lecteur, où avez-vous caché votre prochaine lecture ? Comment, vous ne savez pas quoi lire ? Vous n'avez pas le temps de lire ? Vous n'avez plus le temps de lire ? Vous n'arrivez pas à lire ? Vous vous endormez en lisant ? Diantre, mais quelle affaire ! Le début d'année, c'est la prise de bonnes résolutions, celles qui font du bien au corps. Et le cerveau fait, si je ne m'abuse, partie intégrante du corps. La relaxation est idéale pour parer au stress de notre quotidien. La relation se pratique, la relaxation aussi se pratique avec un bouquin. Voyager est bon pour la déconnexion. Ouvrir un livre est un voyage économique et écologique. Travailler ses connexions neuronales est indispensable pour faire face au vieillissement. Enrichir sa culture, avoir des sujets de conversation, eh bien tout ça passe par ce merveilleux support qu'est le livre. Vous avez des problèmes de sommeil ? J'ai la solution. Prenez un livre. Vous ne savez pas quoi lire ? Rencontrez des humains formidables qu'on appelle aussi bibliothécaires, documentalistes, libraires et nos copains, copines, lecteurs. S'en fait du monde pour s'occuper de vous, pour vous faire du bien. Une vraie séance de bien-être et ça ne coûte rien. Après, il nous reste bien heureusement la radio. Il est vrai qu'il n'est pas aisé de lire en travaillant. Adèle Lébable, couturière, ne dira pas le contraire. Votre programme du jour, une rencontre un peu rappeuse ou un entretien rappeux. Non, bien mieux, au détour d'une rencontre avec un rappeur qui voit de sa fenêtre le ventoux. J'ai nommé Monsieur Big Azzy, qui travaille avec les mots, la syntaxe. Je ne vous en dis pas plus. Une réponse à l'interview de Big Azzy, c'est ma surprise. Je vous en dis encore moins. Je vais finir par me taire. Poursuivre la chronique Cas d'école avec de l'aventure, du suspense, de la science, merci l'Éducation nationale, et notre actualité du mois.
Au détour d'une rencontre.
J'ai découvert Big Azzy, rappeur de son métier, par un enseignant, un instit, comme on disait. Et c'est avec joie, total néophyte en rap que je suis, qu'un lien étroit s'est tissé pour faire lien avec la littérature et l'écriture. Notre rencontre s'est faite dans une brasserie. Nous avons consommé sans alcool, parce que sinon la fête s'affole. Nous avons déménagé de brasserie pour cause de fermeture. Et tout cela, vous allez l'entendre. Désolé donc par avance pour tous les bruits du domaine du vivant que vous allez entendre. Ilias Big Azzy, bonsoir. Comment allez-vous ?
Bonsoir. Écoutez, ça va très bien. En pleine forme.
Alors, on va essayer de savoir un petit peu qui est cet Ilias Big Azzy. Donc, peut-être vous allez nous faire un petit CV. C'est un peu surprenant, là, parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude d'avoir des Ilias Big Azzy à la radio qui font du...
Du rap. Donc, voilà, moi, c'est Ilias. Et donc, Big Azzy, c'est entre guillemets mon blaze de rappeur. Pour le petit CV artistique, entre guillemets, je rappe depuis plus de 10 ans. Voilà, depuis plus de 10 ans, j'ai créé une association à mes 18 ans, donc Gravé dans l'art, qui m'a permis justement de développer ma musique et de développer l'écriture de texte, l'écriture et l'interprétation de texte. Et voilà, je me présente aujourd'hui comme un auteur interprète. Et j'essaie de plus en plus, avec l'expérience, de transmettre ce savoir.
Alors, je vais reprendre pour les puristes. Il a dit blaze. Blaze, Ilias Big Azzy, il va falloir nous traduire ce que c'est. Parce qu'il y a un lexique dans le rap. Hein. Il y a un lexique aussi de la jeunesse. Oh, il n'est pas très, 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 très jeune non plus, mais il n'est pas très, très vieux non plus, Ilias Big Azzy. Blaze, traduction ?
Le blaze, dans le dictionnaire du rap, le blaze, en fait, c'est le pseudonyme C'est le surnom, voilà, bah, la plupart des rappeurs, bah, comme, mais même comme dans le milieu du hip-hop, hein, quand on prend le milieu du graffiti par exemple, ou bah, du DJing ou de tout ça, le blaze c'est souvent, enfin c'est un pseudonyme sous lequel se cache l'artiste, on va dire entre guillemets. Voilà, c'est pour soit pour rester anonyme, soit pour vraiment avoir un nom qui le valorise par rapport à ce qu'il produit.
Alors pourquoi Ilyes Bigazi aujourd'hui ? Parce que le rap après un petit entretien qu'on a eu avant de commencer cet enregistrement avec Ilyes Bigazi, c'est qu'en fait il nous a Bigazi. Tiens, Bigazi. C'est une méthode et c'est surtout une écriture. Et je pense qu'il va nous expliquer un petit peu cette écriture du rap, Ilyes Bigazi. Pouvez-vous nous en parler un petit peu ?
Bah c'est une écriture qui est pas commune, parce que bah dans le rap faut savoir que bah on a des techniques, bah pour améliorer ce qu'on appelle le flow, pour rapper dans les temps, pour être en rythme, et il y a plusieurs manières d'écrire, donc de composer avec la musique. On est sur un beat assez sec, et donc du coup il y a plein de choses à mettre en œuvre, enfin il y a plein de techniques que nous on essaie de mettre en place et de transmettre aux jeunes, et donc voilà.
Alors, on nous a soumis de partir. Donc, on va voir combien de temps. On a combien de temps encore ? 2 minutes, 3 minutes ?
Ouais, mais j'ai pas vu que vous étiez en train de...
C'est pas grave. Vous nous accordez combien ?
2 minutes, oui, ça va. 2 minutes, c'est bon.
D'accord. Peut-être qu'on va se déplacer, alors.
Bon, on
va se déplacer. Ah, on a été un petit peu coupé parce qu'il a fallu qu'on se déplace. On est dans une brasserie avec Ilyes Bigazi. Donc, petite coupure. On reprend sur l'écriture dans le rap. Ah, on va être coupé à nouveau. Deuxième coupure pour aller boire un petit verre avec Bigazi. On était sur l'écriture et le rap, puisque quand même on est dans une émission littéraire, et ce qui nous liait, c'était quand même cette écriture et le rap. Mais il y a bien d'autres choses qui nous lient. Bigazi, l'écriture et le rap. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur l'écriture dans le rap ?
L'écriture dans le rap, en fait, moi déjà, par rapport au rap, comment j'ai commencé à faire du rap, toute personne qui commence à faire du rap, elle commence d'abord, bah, le premier travail qu'elle fait, c'est l'écriture. Donc la base de tout dans la musique, et notamment plus en particulier dans le rap, c'est l'écriture, c'est l'essence même de cet art en fait. Et moi, si j'ai commencé à écrire, c'est parce que bah, je ressentais peut-être un besoin d'exprimer certaines choses que j'arrivais pas forcément à exprimer en vrai ou en direct ou quoi. Et donc en fait, le fait de retranscrire sur papier plein de choses, bah des faits de société, des choses que l'on ressent, notre avis sur la société, sur la vie, sur plein de choses, c'est plus facile et on laisse plus place justement à la création, à l'imagination. On peut moduler tout ça sur papier, et ce qui donne le côté un petit peu magique de l'écriture. Et on peut retrouver ça justement dans la littérature, dans les livres. On retrouve ça un petit peu de partout, et c'est ce qu'on essaye de mettre en place, mais bien entendu avec les formes du rap, quoi.
Alors c'est là ça devient intéressant, c'est que tout à l'heure on a parlé donc de lexique par rapport au blaze. Il y a aussi une méthode propre au rap, et cette méthode propre au rap, vous êtes capable de l'enseigner, de le former, puisque par votre parcours, c'est ce que vous avez fait. Racontez-nous cette forme, cette méthode et ce parcours par rapport à l'enseignement de la méthode du rap, de l'écriture du rap. Ouais, le parcours de Bigazi et le parcours de ce qu'il a fait à côté pour accompagner dans la formation du rap.
D'abord, on parle de la méthode.
La
méthode d'entreprise, ok. Ben, la méthode, elle est simple en fait. On a le système des mesures dans le rap. Donc, enfin, après, c'est le système qui est dans la musique. On écrit des couplets. Donc, comme dans toute musique, c'est couplet, refrain. Et le principe même du rap, la manière d'écrire qui est la plus simple, c'est d'écrire des couplets de 16 mesures. 16 mesures, une phrase représente à peu près une mesure. Une mesure, on va dire par exemple, si on regarde par rapport à la poésie, une mesure, ça représenterait un vers. Et donc, comme dans la poésie, on a des alexandrins, etc. Donc, ce qui est le plus approprié au rap, c'est des alexandrins. Donc, c'est des mesures de 12 syllabes. Et donc, on se retrouve avec des textes de 16 mesures, donc de 16 vers de 12 syllabes.
Juste une parenthèse, et qu'il rigole parce qu'on nous apporte vraiment un vers, et là on parlait bien de vers, comme disait en alexandrin Bigazi. Moi j'aime bien parce que vous avez bien parlé de vers, et non pas de vers, on est en train de se boire un verre. On parle de mojito sans alcool, je précise. C'est le lien que vous avez fait avec la poésie. Donc il y a cette technique, cette méthode, mais il y a le lien direct avec la poésie. Donc on en est, comme vous dites, à la littérature. Je ne me trompe pas, Bigazi?
Non, oui, il y a ce lien avec la poésie et la littérature. Et il y a beaucoup de choses qu'on retrouve également en poésie. On a les rimes aussi. C'est-à-dire que le rap aussi, ce qui va rendre joli l'interprétation d'un texte de rap aussi, c'est le fait que ça rime. Après, on a des rimes croisées, des rimes riches, des rimes multisyllabiques. On a toutes ces formes de rimes. Et ça se rapproche vraiment de la poésie. Et après, on a aussi la métaphore. On utilise beaucoup la métaphore dans le rap. Donc si on utilise le lexique du rap, on appelle ça de la punchline. Donc la punchline, c'est des phrases qui percutent, ou des phrases qui percutent un peu métaphoriques. C'est ce que les rappeurs essaient de plus en plus d'utiliser. C'est devenu même à l'heure d'aujourd'hui comme un petit défi que les rappeurs se donnent. C'est-à-dire, c'est celui qui va... C'est comme à l'époque, hein, celui qui avait la meilleure prose, là, c'est celui qui a la meilleure punchline. Et c'est bien parce qu'en fait, le rap, en fait, c'est la poésie du 21e siècle. Hein. Comme disait un rappeur, Kerry James, disait, nous sommes les poètes du 21e siècle. C'est un petit peu ça aujourd'hui. Et on est la relève, mais sous une autre forme.
Alors là, moi, ça me fait bien plaisir d'entendre ça, Bigazi. C'est évidemment ce lien avec la poésie. Et là, quand on entend la technicité justement, de l'écriture du rap, on se rend compte que c'est pas du n'importe quoi. Alors, c'est sûr qu'il y a un peu de l'anglicisme en termes de punchline, mais qu'en fait, de la métaphore, de l'image. On est en plein cours de français, là, ou je me trompe, Bigazi?
Non, on est peut-être... Enfin, on est en plein cours de français, mais bon, faut pas trop le dire aux jeunes qui veulent faire du rap, ça va leur faire peur. Non, mais clairement, oui, vraiment, on a la chance, d'avoir une langue, la langue de Molière, qui est ultra riche, assez spécifique, assez riche, comme je le disais, et qui nous permet vraiment de jouer avec les mots et pour pouvoir expliquer une chose ou parler d'un certain sujet, on peut utiliser des tas de manières, il y a des tas de chemins qui peuvent nous mener à ça. Et c'est complètement ça. Hein. Ça nous arrive même sur des ateliers d'écriture, d'utiliser des dictionnaires, d'utiliser des dictionnaires des rimes, des synonymes. Ça permet aux jeunes même d'un petit peu voir tout ce qui est possible. Ça permet même de développer son champ lexical, développer son vocabulaire. C'est vraiment... Ça apprend vraiment plein de choses et ça aide aussi par la suite justement à pouvoir s'exprimer. C'est de la pédagogie active, les ateliers d'écriture. Faudrait l'enseigner en éducation nationale.
Oui, vous avez bien entendu, Bigazi l'a dit, c'est de la pédagogie active, c'est-à-dire qu'on devient active, on travaille nous-mêmes, on n'est pas là à emmagasiner ce que quelqu'un a déjà travaillé. Très intéressant ce qu'il dit, Bigazi. J'espère que ça va... Peut-être réveiller quelques consciences de personnes qui n'aiment pas le rap ou qui ont une mauvaise approche du rap quand on vous entend parler, Bigazi. Bigazi, vous avez parlé d'ateliers d'écriture. Parlez-nous un petit peu plus de ces ateliers d'écriture. Vous en avez animé, vous continuez à animer, et ça sert à quoi ces ateliers d'écriture?
Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai créé l'association donc Gravé dans l'art à mes 18 ans, donc c'est il y a 9 ans aujourd'hui. Et donc, en fait, cette association, donc, la première chose qu'on mettait en place, c'était des ateliers d'écriture. Au début, vraiment juste pour les jeunes de notre quartier. Et ensuite, on s'est développé, on s'est mis à faire des ateliers d'écriture un petit peu partout dans la région. Le but de ces ateliers, c'est tout simplement de s'exprimer sur papier, en utilisant toutes les méthodes qu'on a citées juste avant. Ça permet vraiment de pouvoir permettre aux jeunes de mettre sur papier ce qu'ils pensent. Et c'est magique vraiment parce que parfois on obtient des textes, on voit des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, ça nous en dit long sur les personnes qui sont en face de nous. Il y a cet aspect aussi un petit peu thérapeutique de l'écriture. C'est une guérison l'écriture, j'ai envie de dire.
Oui, on est bien d'accord qu'on est sur du thérapeutique, on est sur du révélateur. Bigazi, on va parler un petit peu de bouquins, ouais. et tout à l'heure vous m'avez évoqué quelques livres. Mais rappelez-nous aussi les conditions de la découverte du livre et de quel livre.
Alors, quand j'étais jeune, je lisais pas énormément, Mais ce qui s'est passé, bon, je me rappelle quand j'étais jeune, en fait, je partais souvent en vacances, donc je partais au Maroc visiter ma famille. Je partais pendant les 2 mois de l'été. Donc les 2 mois de l'été, quand on part en vacances pour un jeune, c'est assez long. Et moi, j'ai eu la chance d'habiter dans un quartier à la Renjane où il y avait la bibliothèque juste en face de chez moi. Et donc ce que je faisais avant de partir en vacances, ben, j'allais à la bibliothèque et je faisais le plein de livres. Et j'avais cette bibliothécaire qui un jour m'avait... Bon, j'avais lu les Harry Potter, mais ça c'est connu, j'ai lu tous les Harry Potter. Et il y avait un livre aussi qui m'avait marqué, donc qui s'appelait Le fabuleux destin de Linus Hope. C'est un livre qui m'a marqué et qui m'a construit un petit peu en même temps aujourd'hui, auquel je fais même un peu référence souvent dans mes textes et dans ma manière d'écrire, et même dans ma manière d'être aujourd'hui. Parce que ben, je vous explique un petit résumé de l'histoire. Donc si je me rappelle bien, c'est l'histoire d'un jeune dans un futur proche. C'est un livre de science-fiction, faut savoir, et un livre aussi de
une dystopie.
Voilà, j'ai appris le mot. Donc c'est une dystopie. Donc ce livre en fait parle dans un futur proche d'une société dans laquelle les gens sont divisés par catégories. Donc ils se retrouvent dans plusieurs sphères, donc il y a la sphère 1, la sphère 2, la sphère 3, la sphère 4. Et pour accéder à ces sphères, chaque personne doit passer un examen dès l'âge de 14 ans. Et en fait, donc, ceux qui, à l'issue de cet examen, les gens vont se retrouver dans une sphère même coupée de leur famille, etc. Et ceux qui accèdent à la sphère 1, bah, c'est ceux qui sont très développés intellectuellement et qui sont assez riches. La sphère 2, c'est ceux qui vont être forts manuellement. La sphère 3, c'est ceux qui auront pas trop de compétences. Et la sphère 4, entre guillemets, bah, c'est les oubliés, ceux qui, dans le cas du livre, servent à rien pour la société. Donc le livre raconte l'histoire d'un jeune garçon qui veut un petit peu casser tout ça et casser ses codes et détruire ses sphères. Pour montrer que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut et qu'on n'est pas régi par nos idées ou notre manière de faire ne doit pas être régi par un système qui nous met dans des cases. Et je fais le parallèle un petit peu avec le rap parce que ça a été très inspirant pour moi dans la musique, parce que c'est d'ailleurs ce qui m'a fait aimer le rap, c'est que la musique rap aussi c'est une musique protestataire, qui traite de sujets de société comme ça, qui traite de tout ça. C'est de ça que j'essaie de traiter aussi dans mes textes. Je parle beaucoup d'espoir, de liberté d'opinion, de liberté de choix. Moi je crois fermement qu'on est libre de choisir ce qu'on veut faire, on est libre de réussir ou non, peu importe d'où l'on vient, peu importe qui l'on est. Et voilà, et moi je sais que je suis une personne très instable, et donc je me revois un petit peu en ce Linus Hope là, ce personnage dans ce livre qui veut un petit peu casser les codes et montrer qu'il est capable d'accéder à ce qu'il veut parce qu'il en a envie, tout simplement.
La motivation, le nerf de la guerre, et puis la peur d'être cloisonné, d'être cloisonné, hein, c'est
exactement ça. Bah ouais, la peur d'être cloisonné, moi c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Enfin, je pense que j'ai du mal, mais après je suis pas le seul, et ça se ressent même à travers l'écriture. C'est ce que j'explique aussi lorsque j'écris. J'ai du mal à être mis dans une case et à me dire, à être catalogué, à me dire bon, toi tu viens de tel endroit, tu feras ci, ça ou ça et pas autre chose. Non, moi je crois qu'on est tous capables de faire ce qu'on veut, tant qu'on se donne les moyens, c'est à nous de se les procurer.
Vous avez parlé de quartier tout à l'heure, c'est un cloisonnement le quartier ?
Ça peut l'être comme ça ne peut ne pas l'être. En fait, moi je suis issu d'un quartier, je suis issu de la Renjane, je suis fier d'avoir grandi là-bas, et en fait je prends ça comme une force aussi. Je prends ça comme une force, pourquoi ? Parce que je sais qu'en vivant là-bas, j'ai vu des choses que j'aurais pas pu voir ailleurs, j'aurais pas pu voir dans un certain confort, dans une autre vie. Et ça me motive justement à me dire, je démarre avec moins de chance que les autres, je serai encore plus fier si j'y arrive, je serai encore plus fier si je casse toutes ces barrières qui font que je suis aujourd'hui considéré comme un banlieusard ou un jeune de quartier ou quoi que ce soit d'autre. Ça me rendra encore plus fier et je pourrais même être un exemple pour les générations futures en disant, vous voyez, ça sert à rien d'être dans la position de la victime en se disant ouais, mais de toute façon c'est parce que je viens de là-bas que j'y arrive pas. Non, justement, on est tous capables de faire des choses, et j'essaie de prendre tout ce qui vient comme une leçon de la vie.
Alors tout à l'heure, vous me parliez du livre Le fabuleux destin de Linus Hoppe, écrit par Anne-Laure Boudou. Linus Hoppe, alors ça vous plaisait, ça vous a plu le titre Hoppe d'espoir. Vous êtes l'espoir de la reine Jeanne.
L'espoir de la reine Jeanne, je sais pas. Déjà, je suis l'espoir de moi-même. Déjà, ouais, voilà. Après, j'essaie au mieux de transmettre des valeurs positives à mon entourage et à toutes les personnes qui m'entourent. Et je sais que je sais qu'on a besoin de modèles comme ça pour pouvoir montrer aux gens et même bah même à travers le rap et l'écriture. Hein. Moi, c'est en voyant des rappeurs réussir, par exemple. Pas forcément d'Avignon, pas forcément de mon quartier, mais voir des rappeurs réussir, ça nous donne aussi envie de nous dire, ben, lui il y arrive, lui il est considéré alors qu'il vient du même milieu que nous, pourquoi pas nous ? Et on retrouve des rappeurs aujourd'hui ben, qui sont dans le cinéma, qui sont dans la production, qui deviennent de vrais businessmen et qui transportent des foules de personnes avec eux, et alors qu'ils partent au début ben, de rien. Et ben, ça justement, ça nous donne envie d'y croire. C'est vraiment l'espoir. L'espoir, ça a fait beaucoup dans ma vie. Ça m'a permis de ne pas lâcher vraiment dans tout ce que j'ai voulu entreprendre.
Big Aziz, c'est l'espoir. Big Aziz, vous m'avez parlé, moi j'ai besoin de savoir qui étaient les passeurs. Vous m'avez parlé de cette bibliothèque de la reine Jeanne. Ça a été le cœur de votre culture, de votre écriture. Il y a quelqu'un peut-être à qui vous voulez rendre hommage dans cette bibliothèque de la reine Jeanne ?
À la bibliothécaire, hein. Voilà. Ben, à Christiane. Bah, je sais pas si elle écoute la radio, mais il y a Christiane et Christiane. Il y avait deux Christiane à qui je fais de gros bisous. On a eu la chance, nous, d'avoir des personnes comme ça quand on était jeunes, parce que bah, déjà, nous, la bibliothèque, c'était bien. C'était un repère pour nous. On allait là-bas bah, justement pour lire des livres. Et en même temps, bah, on faisait nos devoirs là-bas. On avait une autre approche de bah, la littérature, etc. Ils nous apprenaient à aimer à lire. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, moi, je sais qu'à l'école, j'ai eu du mal souvent à lire les livres qu'on nous donnait à lire à la maison, même au collège, etc. On essayait toujours de chercher s'il n'y avait pas le film qui existait pour pouvoir ensuite rédiger le résumé. Mais là, non, c'était une approche différente et vraiment, je les remercie vraiment parce qu'elles m'ont aidé, elles m'ont donné envie de m'intéresser à la littérature. Et je les en remercie, mais je remercie même d'autres personnes. Je remercie même Guy Persia qui, dès le CM2, m'a intéressé à la force qu'il peut y avoir dans la littérature. Et même, il y avait quelque chose qui m'avait marqué bah, dès le plus jeune âge. Bah, en CM2, j'avais quel âge ? Je crois que j'avais 10 ans. Il y avait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui était affichée dans la classe, entre deux posters de Johnny Hallyday. Ça, c'est une dédicace. Et donc, l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en la lisant, moi, je voyais déjà quelque chose de magique, de magique dans ce texte. Et c'est là que j'ai compris bah, qu'il y avait une force. Et après, voilà, j'ai souvent été inspiré même de phrases qui m'ont été transmises par plusieurs profs et par plusieurs... Je me rappelle aussi au collège d'une phrase qu'un prof m'avait dite, c'était « Le savoir est une arme ». Ça m'avait marqué, ça aussi. Et en plus, c'est une phrase qui a été reprise par au moins 1 million de rappeurs. C'est vraiment, et c'est vrai, le savoir est une arme, vraiment. Et on le voit aujourd'hui. Ça permet de pouvoir se défendre et de pouvoir réaliser plein de choses.
Alors Big Aziz, il nous a parlé de la bibliothèque, un service public. Il nous a parlé aussi d'enseignants. Malgré tout, l'école, c'est pas toujours une réussite. Il y a des choses à crier sur l'école.
Ben oui, après, voilà, moi, j'ai pas été un très 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 bon élève quand j'étais petit. J'étais le vilain petit canard, on va dire, entre guillemets. En fait, c'est que moi, l'opinion que j'ai sur l'école, en fait, c'est que le système éducatif ne correspond pas à tous les élèves. Il n'est pas adapté à tout le monde et peut-être qu'il pourrait l'être un peu plus. Déjà, juste quand on se retrouve dans des classes de 30 élèves, on s'en rend compte aujourd'hui avec le recul, hein, on s'en rend pas compte forcément quand on est dans le truc, quand on est adolescent, etc. Mais c'est déjà, je pense que ça, c'est ingérable et on ne peut pas acquérir de la connaissance en se retrouvant déjà à 30 et cette manière où on se sent pas... moi, ce qui m'a vraiment dérangé à l'école et qui a fait que j'ai arrêté alors que j'avais à peine 16 ans, ce qui m'a vraiment dérangé, qui m'a... Enfin, dans les cours, je me répète, hein, pardon. c'est qu'on était plus spectateur que acteur. On était vraiment spectateurs, on entendait, on écrivait, on devait apprendre et ensuite mise en pratique via des exercices, des CCF, des contrôles, etc. On n'a jamais été vraiment acteurs de ce qu'on apprenait. Donc je pense qu'il y a un problème vraiment de méthode pédagogique et c'est dommage parce que peut-être que j'aurais pu pousser plus loin les études, mais après c'est sans regret non plus. Hein. C'est sans regret parce que je suis très vite rentré dans la vie active et ça m'a permis d'apprendre plein de choses par moi-même. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui il y a quelques lacunes à corriger, quoi, tout simplement.
Beau parcours quand même de Bigazi, 10 ans de rap derrière lui. D'ailleurs, bien sûr, on se mettra peut-être un petit MP3 tout à l'heure. On a parlé de Blaze, on a compris qu'il y avait un petit lexique, qu'il y avait une méthode. Vous avez travaillé sur les ateliers d'écriture, vous avez fait travailler en atelier d'écriture. La liaison avec la poésie, on est à fond dans la littérature, il y a du livre. L'avenir, c'est quoi Bigazi pour vous? Alors, il y a des 10 années de rap, il y a de la production aussi en rap, il faut nous parler un petit peu de ce que vous avez fait aussi quand même en rap.
Ben oui, bon alors, en 10 ans de rap, donc ben, c'est, ben, forcément, on en a parlé, ben, plein d'ateliers d'écriture un petit peu dans toute la région. Ça a été aussi ben, des concerts réalisés en tant que rappeur avec mon groupe tout autant qu'en solo aussi un petit peu partout dans la France. Ça a été aussi un album que j'ai sorti en 2015. Ça a été aussi deux projets sortis en groupe. Ça a été aussi la participation dans plusieurs projets de plusieurs rappeurs de la région. Ça a été c'est aussi des passages en radio, des freestyle radio, des clips vidéo sur YouTube. Petit à petit, ça se développe et on est en train de prendre un petit peu ben, une autre casquette. J'essaie de me mettre un peu plus en retrait par rapport à tout ça, bien que je continue d'écrire. Je suis plus dans la transmission de savoir et je me place un petit peu plus en tant que producteur de musique, on va dire. C'est-à-dire que bah, j'essaie de miser sur l'avenir, sur les jeunes talents. Et donc du coup, même au niveau de tout ce qui est concert, on essaie même de s'impliquer vraiment dans l'organisation de concerts. On a beaucoup travaillé dans la production exécutive, notamment avec des amis à moi, Saphir et Salim, avec qui on a beaucoup bossé. On a pu permettre à un jeune qui avait commencé les ateliers d'écriture à l'époque et qui a bien grandi maintenant, on a pu lui permettre de signer un contrat en maison de disque. Ilyes, que je salue, qui s'appelle comme moi en plus, que je salue notamment. Donc c'est en ayant fait toutes ces choses-là que je me dis... On est capable de faire plein de choses. C'est-à-dire qu'on voit des exemples à la télé, etc. Et en les regardant, on se dit, mais pourquoi pas nous? Et c'est vrai, ben oui, pourquoi pas nous? C'est bête, hein, mais si eux en sont capables, on est capable aussi. C'est à nous de nous fabriquer nos outils et hop, d'y aller, quoi. Tout simplement.
Moi, j'ai envie de rebaptiser Bigazi. J'ai envie de l'appeler Mr. Bigazi Hope. Parce qu'il nous donne plein d'espoir, il nous redonne de la lumière par rapport au rap, surtout si on en est loin. Il nous rapproche de l'humain, il nous redonne vie au quartier. Vous ne pensez pas vous présenter à la mairie d'Avignon, Bigazi?
Vous avez soulevé une question. Non, je compte pas me présenter pour l'instant. Après, peut-être que vous allez voir une photo de moi un petit peu partout dans la ville.
Ah, on est curieux. Moi, je vous relance. Bigazi, c'était une super rencontre. On est sur Avignon. Alors, il y a eu des bruits derrière parce que ben, on est au bar, hein, tout simplement, un endroit de rencontre. Hein. On n'a pas pu aller à la bibliothèque parce qu'elle fermait un peu trop tôt. On n'est pas allé à la BU universitaire parce que là, on se serait fait sortir, je crois. On est dans l'ambiance. S'il y a un mot de fin, un encouragement que vous avez envie de donner par rapport aux mots, à l'écriture, ça serait quoi, Bigazi?
Croire en ses rêves. C'est bête, hein, c'est une phrase bateau, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai, parce que au fil du temps, j'ai l'impression que ben, les rêves de chacun s'estompent et s'effacent. Dans la société dans laquelle on vit, on se dit que ben, presque plus rien n'est possible. Moi, j'ai envie de dire non, c'est pas vrai, il faut continuer de croire en ses rêves. Et c'est vraiment en croyant en ses rêves jusqu'au bout qu'on réussira. Et donc, croyez tous en vos rêves, et ça va le faire.
Merci Bigazi et à une prochaine. Au revoir.
à la recherche du bonheur, celui qui apaise les cœurs, celui qu'on trouve dans le din, le vécu ou par la sueur, celui qui met de l'amour là où la haine s'est installée, celui qui me fait oublier qu'un jour j'ai eu le mal de t'aimer, celui qui fait sourire ta mère, celui qui rend fier ton père, celui qui fait que tu remercies Dieu à chacune de tes prières, celui qui fait de toi un homme avançant sans reculer, qui ne vit pas dans la contrainte ou les regrets du passé. Je passe mon temps à me plaindre, merde, mais où on va? Le shaitan veut me convaincre que le haram c'est halal. Rappelle-toi des premières fois, des premiers instants de bonheur. Je me rappelle avoir pleuré quand j'ai vu ma petite sœur. Si souvent je vous néglige, je monte pas souvent de mon amour. Rappelle-moi ta naissance si je vous fais mal, rappelez-moi ce jour. Rappelle-moi ce jour où on marchait sur du verre. Car déjà petit, fallait faire face aux disputes et la colère. Rappelle-moi que chaque jour j'allais visiter ma grand-mère, que grâce à elle ma famille tenait sur un fil de fer. Rappelle-moi qu'un jour j'étais pas un mauvais élève, mais que leur éducation me dégoûte et nous apprend à être faible, à réfléchir selon leur histoire qui n'a jamais été la mienne. Même pas les reins de la Shoah, c'est qu'une excuse universelle, et elle sert pour ces gens à la recherche du bonheur, qui ont besoin du maxima, qui font pousser l'euro comme des fleurs. Rappelle-moi qu'un jour j'ai voulu être entrepreneur, que certains que tu côtoies chaque jour faisaient doigt pour ton malheur. Me rappelle pas que j'ai vu rouge quand tu m'as traité de trompeur. On pardonne mais on n'oublie pas, j'arrive pas à soulager mon cœur, j'arrive pas à oublier ce jour où le bonheur t'a souri, où j'avais tellement peur de te perdre qu'au final je t'ai fui. Me rappelle pas ce vol et ce mensonge que j'ai dit, je suis parti, supportez pas de savoir qu'on a grandi. Si peu comprennent certaines paroles, c'est normal car je décris des moments où j'ai vu le bonheur et que je devais lui sourire ou le fuir. Le haïr ou l'envir, le fer c'est lié à la cire. En tout cas j'espère au moins avoir évité le pire. Je me rappelle de ceux qui m'ont soutenu quand j'étais négligé, critiqué pour mieux régner, pour cicatriser son passé. Je me rappelle que verser des larmes ça n'arrive plus depuis trop longtemps. J'arrive à me dégoûter de moi-même, à croire que j'ai plus de sentiments. Je me rappelle avoir encaissé sans l'ouvrir une seule fois, sans remettre à Dieu quand vraiment plus rien ne va. S'en éloigner une fois, qu'un peu de bonheur s'ouvre à toi. Hypocrite que je suis, je fais du yo-yo avec ma foi. S'occuper d'un enfant, victime de handicap, m'a rappelé que ça moquait, fait juste de nous des hommes lâches, lâches et méprisants, misant sur l'apparence, en manque de réflexion, faisant de la médisance à la recherche du bonheur. Est-ce un sexe résume ta vie? Vis ton paradis sur terre et un enfer sera ta vie. Amour, gloire et beauté, argent, femme et bonheur, savoir avoir et donner, travail et donner sa sueur. À quoi se résume ta vie? À quoi se résume ton bonheur? Un ticket gagnant de loterie, un sourire ou des pleurs, un échec, une trahison, un sentiment des frissons, un homme en perdition, une femme en dépression, un homme en manque d'affection, un peuple en manque de dons, un rail, un verre, un cacheton, une balle qui personne t'impend.
Gazi, j'ai une petite surprise pour vous, parce que vous avez rendu hommage à un ancien instit, parce que vous nous avez parlé de votre image résiduelle de la Déclaration des droits de l'homme accrochée au mur de sa classe entre deux posters de Johnny Hallyday. Eh bien, il va nous raconter, monsieur Guy Persia, et il a de quoi dire, ça va vous remettre dans le contexte de l'époque. Guy Persia, c'est une autre version de l'école. Si vous prenez des notes de tout ce que l'enseignant qu'il était faisait, armez-vous de deux blocs papier et trois stylos. C'est parti.
Bonjour Dorcas, bonjour Bigazi. Oui, je suis très heureux de voir qu'un ancien élève rende un tel hommage aux petites bricoles qu'on a pu faire dans un quartier, celui de la Reine Jeanne en particulier, où j'ai eu le plaisir d'être à la fois directeur d'école, président de l'association Rencontre Laser pour tous, qui est devenu après un centre social, voilà. Et on a mis en place aussi l'aide aux devoirs, lire et faire lire, etc. Et voilà, donc Bigazi pense qu'il en a tiré profit. tout l'ensemble des personnes qui sont intervenues ont fait en sorte que la bibliothèque, que tout ça soit ouvert aux enfants de la Reine Jeanne, ce qui fait que certains d'entre eux, comme Bigazi, a pu s'élever socialement, je dirais, et avoir une qualité humaine assez importante. Voilà. Donc, moi, je m'appuyais tout simplement en tant qu'instituteur de la République laïque, obligatoire et gratuite, bien sûr, sur la Déclaration des droits de l'homme. En fait, cette affiche nous était envoyée généralement par le Conseil général du Vaucluse. Je crois que c'est M. Jean Garcin qui avait mis ça en place. Voilà. Et donc, oui, la République, les droits de l'homme. En fait, voilà, j'avais essayé de travailler là-dessus. En plus, ça faisait partie, comme j'étais franca, on avait travaillé aux droits de l'enfant, qui a été voté en 89 à l'ONU, 90 en France. Et on travaillait sur certains articles. Voilà, donc les enfants ont droit à la protection, ont droit à l'éducation, etc., etc. Voilà, ça a dû lui donner quelques pistes pour faire ce qu'il a fait. Et donc, je répète, ma petite contribution, comme d'autres, bien sûr, les personnels de la bibliothèque, le centre social, tout ça, ont apporté à ce garçon qui était très ouvert. Alors, quand il dit qu'il était spectateur plutôt qu'acteur, c'est qu'en fait, il était très observateur, parce que le quartier n'était pas toujours très facile à vivre. Voilà, il y a eu des coups de feu, il y a eu plein de choses pas trop bien, mais grâce à l'école, grâce à la bibliothèque, eh bien, les jeunes qui ne voulaient pas sombrer dans quelque chose, je pense à Bigazi, mais il y en a d'autres, je ne me permets pas de donner leur nom, mais donc dans cette école où j'ai été d'abord parent d'élève, que beaucoup des enfants qui étaient dans cette école portent en eux les articles de la Déclaration des droits de l'homme, c'est parce que l'équipe d'enseignants que nous étions, une équipe formidable, a pu faire passer et dans la compréhension, mais aussi dans les actes, c'est-à-dire en participer, par exemple, aux sorties UZEP. UZEP, c'est Union sportive de l'école primaire, c'est-à-dire que même pendant certains mercredis non scolarisés, enfin à l'époque c'était pas à l'école, hein, le mercredi on n'allait pas à l'école, et donc on allait à l'UZEP. Ils ont participé à des tas de rencontres sportives, que ce soit athlétisme, que ce soit rugby, que ce soit football, que ce soit basketball, et même une fois en finale départementale de basket de l'UZEP, c'est une équipe de Sturmel qui a gagné, parmi lesquels il y avait deux ou trois des élèves de ma classe pour l'accueil des enfants trisomiques 21. Voilà. Après, voilà. Donc, mais j'ai aussi exercé dans des classes ordinaires et parfois, on trouvait des choses intéressantes. Je me rappelle je dirais que son prénom, Olivier, avait été choisi par Cécile L. pour être, nous l'avions choisi, Cécile L. l'accompagnait quand elle était députée Vaucluse, et il a été enfin député, donc, la classe de CM2 que j'avais avait proposé d'ailleurs un texte de loi qui n'a pas été retenu pour l'accueil des enfants en situation de handicap dans les écoles. Et puis plus tard, en 2005, le 11 février, il y a eu cette fameuse loi pour l'accueil dans toutes les structures possibles, l'accueil des enfants porteurs de handicap. Voilà. Alors ensuite, on me dit Johnny Hallyday. Bon. Alors pourquoi Johnny Hallyday? Eh bien, Johnny Hallyday, bien sûr, je suis fan, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il se trouve que j'avais vu une émission où on montrait les bienfaits de regarder, d'imiter et de copier Johnny Hallyday quand on avait des difficultés de langage. Et j'avais pratiqué ce que j'avais appelé la Johnny thérapie, moi, dans ma classe pour enfants porteurs de trisomie 21. Et il se trouve, et je vous assure, c'est pour moi quelque chose d'énorme, quoi. Quand le président de la République, Jacques Chirac, est venu à Avignon, il a assisté à une pièce de théâtre dans laquelle, sur la photo, la première page, là, ça s'appelait Le Provençal à l'époque, on voit le président Chirac qui écoute une pièce de théâtre, et là, on a, je dirais que son prénom, Gaëtan qui joue, alors que Gaëtan était considéré comme au moins bègue, sinon même muet, quoi. Et grâce à Johnny, il a trouvé le langage et il a donc pu jouer sa pièce de théâtre. Voilà. Alors Johnny Hallyday, c'était aussi, on faisait la danse, donc on participait au gala de l'Union, au gala de, comment ça s'appelle, de la Fédération des œuvres laïques qui avait lieu depuis la Libération grâce au général de Gaulle à l'Opéra d'Avignon. C'était une soirée et donc de temps en temps, je participais quand j'avais des élèves susceptibles de tenir la route. Donc c'était le cas avec la classe qu'on appelle Clis et même Ulysse maintenant, on l'appelait Clis à l'époque. Et j'avais des élèves qui étaient très doués en danse, d'autres en... Donc l'école participait, il n'y avait pas que les trisomiques, il y avait aussi d'autres classes de l'école qui étaient retenues pour faire ça. Et bien sûr, lire et faire lire. C'est-à-dire que après 4h30, les enfants pouvaient aller à l'étude et puis certains pouvaient participer à l'opération Lire et faire lire d'Alexandre Dujardin, qu'on avait adopté tout de suite dans le cadre de la Fédération des œuvres laïques. Voilà. Et donc, voilà pourquoi. Alors, après, la question personnelle qui concerne Bigazi, c'est-à-dire qu'il se soit senti spectateur dans sa scolarité, c'est parce qu'il doit avoir une fibre artistique et il le prouve en étant ce qu'il est, hein, et sa poésie. Moi, j'ai bien écouté sa chanson où il parle de l'école et ce qu'il reproche à l'école. On était quand même dans un quartier, on s'en rend compte maintenant, quoi. Difficile, même si nous, tous les enseignants, on est restés assez longtemps en poste. On appréciait de nous retrouver, de collaborer avec les parents, de collaborer avec les commerces du coin. Je me souviens que, par exemple, la cantine, c'est la boulangerie du coin qui était sollicitée par la mairie, c'était à l'époque de Guy Ravier, pour fournir le pain à la cantine. Donc, je veux dire, commerce de proximité. Il y avait donc l'association Rencontre et Loisirs pour tous qui avait été mise en place par Dominique Taddeï sous la municipalité d'Henri Dufou, qui s'y continuait après avec Jean-Pierre Roux, qui s'y continuait après avec la municipalité de Guy Ravier. Et etc. Quoi. Donc, c'est des choix... Que le quartier tel qu'il était a favorisé. Et en plus, à l'école, on organisait chaque année un loto. L'association des parents d'élèves organisait un loto. On avait un franc succès. Et je me souviens qu'on avait même pu se payer. Enfin, on avait pu. L'association, alors je crois que c'était ma femme, Anne-Marie Percia, qui était présidente, avait pu payer un photocopieur professionnel, je dirais. À l'école, ça coûtait à l'époque 8000 francs, et tout ça grâce au loto, quoi, qui avait permis ce genre d'achat. Voilà. Et donc, pour aller, par exemple, à Paris, je sais que la députée Cécile Huel avait permis qu'on puisse y aller. Elle avait contribué, d'abord, nous avait accueillis là-bas au Parlement, à l'Assemblée nationale. Elle avait contribué à la dépense. Les parents n'ont rien payé, c'est l'association des parents d'élèves et aussi l'OCCE, on était à l'OCCE. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'outils dont on peut disposer. Bon, ça demande une forte implication de la part des uns et des autres. Et lorsqu'on a l'adhésion des familles, ça rejaillit chez les enfants et les enfants ont envie de bien faire. Alors, je citerai pas leur nom, mais par exemple, je me souviens que Vinciane m'avait fait un t-shirt où elle avait dessiné un portrait de Johnny, donc je l'ai toujours, bien sûr. Je ne le mets pas parce que je le trouve très beau. Et Vinciane, maintenant, est dans ce métier artistique. Donc, on a développé des métiers artistiques, des littéraires. Il y en a qui sont avocats. Voilà. Donc, même dans une école réputée, pas réputée, mais qui avait une réputation de quartier difficile et tout et tout. Si on a les outils pédagogiques qui vont bien, eh ben ça se passe très bien. Alors, il dit qu'il se sentait spectateur. Alors, spectateur, peut-être parce que c'est, moi, je crois que ça vient surtout de lui, quoi. Et que, voilà, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est un peu embêtant comme question. Il faudrait poser des questions directement à Elias, à Bigazi, parce que je ne sais pas du tout ce qu'il veut dire par là. Si, et par contre, ça fait plaisir de savoir qu'il a contribué à plein de choses. Alors, le livre dans tout ça... Oui, parce que le livre, c'est important. Hein. Je répète, il y en a une qui écrit des livres, qui passe à la télé. Il y en a une qui est avocate. Enfin, je dis une. Il y a plein de métiers qui tournent autour du livre. Bon, il y a Lire et faire lire, qui a joué un rôle très important. Il y a la bibliothèque Pierre Boulle de la Reine Jeanne, qui a joué un rôle très important, avec sa bibliothécaire, qui a un nom, on va dire, de consonance polonaise, donc je ne me permettrai pas de le prononcer, qui était formidable aussi. Voilà, on travaillait... Enfin, on aurait dit que tout le quartier était autour et pour et par l'école. Voilà. Et bien sûr, les liens avec le centre social, etc. Enfin, je veux dire, en tant que Franca, moi, j'aurais aimé mettre en place ce qu'on appelle l'école ouverte, c'est-à-dire une école qui serait ouverte tous les jours, 7 jours par semaine, 5 jours par an, mais bien sûr, pas que des enseignants qui interviennent. Donc là, on devait changer les enfants de lieu, quoi. À l'école avec les maîtres, au centre social avec les éducateurs, à la bibliothèque avec les bibliothécaires, à la piscine avec les maîtres nageurs. La piscine a joué un rôle très important, la piscine sur 1000, pour tous les élèves, et en particulier, je me souviens, les enfants porteurs de trisomie 21, c'était un moment très 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 important de lien avec eux. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Bon, le livre. Je me souviens que j'avais mis en place un atelier poésie. Donc, les élèves pouvaient soit aller à l'étude, faire un devoir, tout ça, soit on avait mis en place des ateliers avec quelques collègues là, qui étaient volontaires pour ça, parce qu'on n'était pas payé, bien sûr, à ce moment-là. L'étude, oui, mais quand on faisait ce genre d'atelier, on n'était pas payé. On avait fait une chorale. Donc, dans cette chorale, au hasard, il y avait des chansons de Johnny Hallyday, mais aussi de Maxime Le Forestier. D'ailleurs, c'est des enfants qui m'ont appris comment chanter une chanson de Johnny Hallyday quand on n'est pas Johnny Hallyday. Là, j'ai découvert quelque chose d'énorme, quoi. C'est eux, ils le chantaient, voilà, comme on voit dans certaines émissions là, de choristes à la télé. Voilà, ça, c'est une chose qui était très intéressante aussi. Et donc, le livre, je reviens aux idées d'atelier. J'ai mis en place un atelier poésie. Et c'était le CM2, toujours. Et je demandais aux élèves je leur expliquais la poésie, quoi, aux élèves. Hein, et j'utilisais des grands auteurs, hein, attention, aussi bien Victor Hugo, mais là, en leur montrant, bon, là, on est c'est un peu compliqué, mais il y avait aussi Jacques Prévert, il y avait aussi Doisneau, Queneau, enfin, etc. Tous ces poètes, même je leur disais, vous rendez compte, Arthur Rimbaud, à l'âge qu'il avait, il arrivait à écrire des trucs fantastiques. Et voilà, on vivait en symbiose, en fait. Alors là, ce que je peux vous dire aussi, et ça me paraît très important, et, on aurait dû arriver, par exemple, à 8h20 à l'école, on était pratiquement tous là à 7h30 quand on pouvait, les enseignants, et on pouvait partir à 16h30, on partait souvent à 18h, 18h15, donc c'était une équipe formidable, et on avait plaisir à être avec nos élèves et être entre nous, voilà. Donc voilà ce que je voulais dire, et je remercie Bigazi de me rappeler tout ça, ça me rappelle plein de bons souvenirs. Et surtout, je lui souhaite une belle carrière de chanteur, de rap, où il met beaucoup de poésie, beaucoup de lui-même. Et voilà. Je vous remercie de votre émission qui me fait énormément plaisir.
Oula, là ça va faire beaucoup d'écoles pour aujourd'hui. On est toujours sur RTV FM 102.2. Dans la même veine, j'ai encore fait vos devoirs. J'ai lu un Jules Verne qui est au programme des classes de première technologie selon le bulletin officiel de l'éducation nationale. Maline, je vous laisse compléter l'exercice. On écoute.
La chronique cas d'école.
Préparez-vous à la plus périlleuse expédition sur Terre. À vos chaussures de rando, sac à dos, camelback, piolet, corde, frontal, map monde, carte, viande séchée, biscuits secs. Attendez, je reprends ma liste. Bon, on verra plus tard avec le professeur Lindenbrock. Alors, l'éducation nationale vous a collé une exploration sur le dos ? Bon moyen pour alléger le nombre d'élèves par classe. Allez-y les enfants, un voyage au centre de la Terre, c'est trois fois rien. La bonne blague, se rendre au centre de la Terre. Jules Verne nous y emmène. Et croyez-moi, je suis totalement prête. Pour cause, je viens de lire « Voyage au centre de la Terre » de notre meilleur auteur français du 19e siècle. Avant Harry Potter, il y avait une vie littéraire sur Terre. La littérature jeunesse, genrée, scientifique, d'anticipation existait. J'en ai la preuve sur ma liseuse numérique. Oui, Jules Verne nous a écrit à nous, éternels jeunes lecteurs, des histoires d'aventures extraordinaires où la science est omniprésente. Jules Verne écrit en pleine ère des grands bouleversements scientifiques. On est dans le champ des possibles à la moitié du 19e siècle. Toutes les sciences explosent, de la zoologie, botanique, mathématiques, chimie, physique, et j'en oublie, les découvertes se succèdent. La pile électrique, l'électromagnétisme, la locomotive, l'hélice, le télégraphe, la dynamique, la photographie en couleur, le tableau périodique des éléments, la dynamogramme, le téléphone, l'ampoule électrique. Et Jules Verne dans tout ça? Eh bien, il s'amuse de toutes ces inventions qui ouvrent d'autres horizons. L'espace se réduit, l'ailleurs devient accessible. Il est fier, le Jules Verne, d'être dans ce siècle savant. Il le témoigne. Et l'écrit pour notre plus grand plaisir. Oui, c'est un immense plaisir de lire du Jules Verne. Du haut de mon confortable fauteuil, j'ai voyagé de Hambourg en Islande, en train, bateau-vapeur, en goélette, à dos de cheval. J'ai relu mes cartes. J'ai parlé trois langues, l'allemand, le danois, le finnois et même le latin, la langue morte, mais vivante au travers des scientifiques du 19e siècle. J'ai même failli appeler Marine, ma prof de SVT. Parce que oui, il y a de la géologie et un lexique de dingue à se demander si ce n'est pas de la fiction. Mais non, tout est juste. Après avoir recherché tous les mots suspects dans mon Larousse et petit Bobby. Mais voilà, l'hypothèse qui porte l'aventure, vous allez l'écouter. Écoutez l'entretien entre le professeur Lindenbrock et le pauvre neveu contraint de suivre son oncle.
Eh bien, Humphrey Davy vient me voir à son passage à Hambourg. Nous discutâmes longtemps. Entre autres questions, l'hypothèse de la liquidité du noyau intérieur de la Terre. Nous étions tous deux d'accord que cette liquidité ne pouvait exister par une raison à laquelle la science n'a jamais trouvé de réponse. Et laquelle, dis-je un peu étonné ? C'est que cette masse liquide serait sujette comme l'océan à l'attraction de la Lune, et conséquemment deux fois par jour. Il se produirait des marées intérieures qui, soulevant l'écorce terrestre, donneraient lieu à des tremblements de terre périodiques. Mais il est pourtant évident que la surface du globe a été soumise à la combustion, et il est permis de supposer que la croûte extérieure s'est refroidie d'abord, tandis que la chaleur se réfugiait au centre. « Erreur, répondit mon oncle, la terre a été échauffée par la combustion de sa surface, et non autrement. » Sa surface était composée d'une grande quantité de métaux, tels que le potassium, le sodium, qui ont la propriété de s'enflammer au seul contact de l'air et de l'eau. Ces métaux prirent feu quand les vapeurs atmosphériques se précipitèrent en pluie sur le sol, et peu à peu, lorsque les eaux pénétrèrent dans les fissures de l'écorce terrestre, elles déterminèrent de nouveaux incendies avec explosion et éruption. De là les volcans si nombreux au premier jour du monde.
Après, l'hypothèse tient à quoi ? Juste avant, je vous faisais étal d'un siècle de science, de découvertes fantastiques. Et patatras, Jules Verne nous fait des hypothèses. Comment on fait ? On y croit ou on cherche de manière scientifique ? On va se laisser porter par l'hypothèse du professeur Lidenbrock. Écoutons le cher neveu.
Voyons, me disais-je, nous allons gravir le Sneffels. Bien. Nous allons visiter son cratère. Bon. D'autres l'ont fait qui n'en sont pas morts. Mais ce n'est pas tout. S'il se présente un chemin pour descendre dans les entrailles du sol, si ce malencontreux Saknussemm a dit vrai, nous allons nous perdre au milieu des galeries souterraines du volcan. Or, rien n'affirme que le Sneffels soit éteint. Qui prouve qu'une éruption ne se prépare pas ? De ce que le monstre dort depuis 1229, s'ensuit-il qu'il ne puisse se réveiller ? Et s'il se réveille, qu'est-ce que nous deviendrons ? Cela demandait la peine d'y réfléchir, et j'y réfléchissais. Je ne pouvais dormir sans rêver d'éruption. Or, le rôle de scorie me paraissait assez brutal à jouer. Enfin, je n'y tins plus. Je résolus de soumettre le cas à mon oncle le plus adroitement possible, et sous la forme d'une hypothèse parfaitement irréalisable. J'allais le trouver. Je lui fis part de mes craintes et je me reculai pour le laisser éclater à son aise.
Trop tard. Quoi qu'argumente le neveu, tonton Lidenbrock s'affaire sur ses plans. L'aventure est en route et notre roman continue pour notre belle soirée à venir. Coupez vos écrans, coupez-moi ça. Lisez et vous allez vous transporter dans une histoire intelligente, rythmée. Tout y est traité, de la vie sociale de ces coins reculés, des transports physiques, chimiques et même amoureux. Au final, je ne sais pas quelle matière scolaire peut le mieux exploiter ce récit. Le prof d'histoire géo ? Ma prof de SVT ? Celui de physique chimie ? Les cours de français mènent vraiment à tout, surtout à l'aventure. Foncez ! Ne reculez pas devant des mots. Ils sont un monde. Et pas de panique, ce n'est que 189 pages, chère ma liseuse. Et c'est gratuit à la bibliothèque. Allez, je vous ne dévoile pas la suite de l'histoire. Secret que seuls les courageux découvriront. Et oui, c'est ça le courage.
L'actualité littéraire.
Il y a de l'animation littéraire autour du Ventoux en ce mois de janvier. À Châteauneuf-du-Pape, le 16 janvier, ça sera le jeudi à 18h30, à la bibliothèque municipale, 3 rue de la République, ça sera la nuit de la lecture et à l'honneur, Boris Vian. Et la nuit de la lecture, elle passe aussi à la bibliothèque de Lingambertine à Carpentras. Ça sera le samedi 18 janvier, des lectures, des poésies et la compagnie A pour des spectacles lus. À la médiathèque de Cavaillon, le samedi 25 janvier à 17h30, dans la série « Un autre regard sur la société », le thème, ça sera la littérature SF. Aussi, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, du 29 au 2 février, sous le thème « Surprenant vivant », un travail se fera sur la médiation scientifique. Scientifique, je me reprends. Pour rappel, toutes ces manifestations sont gratuites. On peut sortir, se cultiver et tout ça gratuitement. Il vous suffit juste de prendre contact avec vos bibliothèques, vos médiathèques et vous inscrire sur les listes parce qu'évidemment, il n'y aura peut-être pas de la place pour tout le monde. À bientôt à tous. Vous pouvez me retrouver en rediffusion et en podcast. Toutes ces informations, vous les retrouverez sur rtvfm.net. À bientôt.